Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Également chaque week-end, on est avec Christophe Cessieux, on est avec Julien Beneteau, Cédric Aimance et Jérôme Pineau. La doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège vient de s'élancer il y a quelques instants. On va suivre ça toute la journée avec Paul Sexas face à Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, notamment arrivé après 16h. Hein. Normalement, évidemment, tous les moments chauds seront à vivre sur notre antenne. Vous pouvez écouter la première des grandes gueules du sport en podcast, évidemment sur toutes les plateformes. Dans un instant, tiens, on va se plonger les amis dans la fabrique du très très haut niveau, puisqu'on a pu parler cette semaine avec Léon Marchand, notre quadruple champion olympique de natation lancé vers ses nouveaux objectifs. Il va tout nous décrire de l'intérieur, exactement ce qu'il fait. Je vous préviens, c'est quand même assez impactant. Hein. Vous allez me dire si la discipline, l'ultra-discipline même de Marchand, vous impressionne. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, gagnez votre séjour dans un des 400 campings Homer. Ce sont des campings 4 et 5 étoiles situés en France ou en Europe. Voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir pour remporter votre séjour Homer. Appelez le 3216, touchez 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais d'abord, sur le ring, c'est un soir pour savoir à Marseille, savoir si l'équipe va savoir réagir pour aller chercher un podium obligatoire.
RMC, le ring des GG.
Et que vois-je ? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie.
C'est fini, la victoire de Monaco.
C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté?
On est tout près de la catastrophe du côté marseillais.
Quand t'es ici, toujours un sens de responsabilité. En fait, tu joues Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes. Et certains peuvent penser que nous on accepte.
Il faut se battre. Non, on n'aurait aucune chance.
Après avoir accusé 14 points de retard,
oui.
Monaco revient à égalité avec l'OM au classement.
On parle de quoi? De couilles, d'amour propre, de respect. Respect du maillot qu'on porte, du respect des gens.
Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins.
Évidemment qu'on est triste ou en colère par rapport à l'attitude de certains joueurs.
Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling.
Il faut être plus unis que jamais. Tu veux être avec moi? Bon, tu veux me la faire à l'envers. On va à la guerre ou pas? Allez.
Battez-vous et mourrez peut-être.
Ah oui, c'est impressionnant comme ça. On dirait un film spartiate, la saison de l'Olympique de Marseille. Vous avez entendu les mots de Facundo Medina sur RMC cette semaine. Évidemment, les mots de Benny Benassia la semaine dernière. Match brûlant ce soir à 20h45 au Vélodrome. Nice, qualifié en finale de la Coupe de France cette semaine et qui se bat pour son maintien, se déplace chez les Marseillais. Oh là, se déplace chez les Marseillais en pleine turbulence.
Adrien Gouin.
L'OM 6e avec 5 points de retard sur Lyon.
C'est sûr, si
un petit tour chez l'Orto.
Il n'avait pas fini son texte, Georges, mais.
Vas-y, reprends.
Il ne tient pas cette émission. Il ne tient pas ses équipes.
Je ne partirai pas à la gare avec vous, les gars.
Non, si, mais tu seras quoi que.
Défaite à Lorient la semaine dernière, souvenez-vous, on en avait beaucoup parlé. Troisième défaite en 4 matchs de Ligue 1 pour les Marseillais. Il y a eu les mots forts de Mehdi Benassia, je le disais. Il y a eu la visite de Franck McCourt ces derniers jours, hein, notamment. Léger, je vous pose la question ce matin. Avant OM Nice, ce soir, 20h45, est-ce que vous croyez à la révolte marseillaise? Alors, c'est assez rare pour le signaler, mais vous avez tous répondu d'une voix, non, à 85%, vous allez me dire, ah oui, mais il n'y a pas de débat, du coup, pourquoi on fait ce débat? Mais c'est suffisamment rare, justement, et ça montre peut-être quelque chose pour qu'on le fasse. Et surtout, nos votants sur le compte XDGG nous dit non à 85%. Vous ne croyez pas, en large majorité, à la réaction marseillaise. On vous attend, évidemment, supporters marseillais au 32-16 et aussi sur WhatsApp au 06-12-424-424. Florent Germain, notre correspondant à Marseille, est avec nous. Salut, Flo.
Salut Georges, salut les GG, salut à tous.
Flo, tu vas commenter le match ce soir au Vélodrome et tu as tout suivi de la semaine de l'OM cette semaine. C'est toi qui as interviewé Facundo Medina notamment. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, semaine un peu particulière pour les joueurs et l'état d'esprit avant la rencontre de ce soir.
Alors, la semaine a été forcément particulière, mais un peu moins tendue qu'on aurait pu l'imaginer. Habib Bey a surtout sermonné ses troupes lundi lors de la séance vidéo, mais c'est surtout l'interview de Facundo Medina, c'est vrai, sur RMC mercredi, qui a secoué le vestiaire. Certains leaders, ceux qui ont la tête ailleurs ou qui n'ont pas l'air d'être à 100% investis, Medina, lui, est toujours dans l'objectif podium.
On n'est pas mort, je reste optimiste. Ça dépend de notre engagement, de l'ambition de chacun. Si tout le monde comprend qu'il faut se donner à fond, moi je veux jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et que l'OM soit sur le podium. Et si on n'y parvient pas, que cela se fasse avec des joueurs qui ont au moins laissé leur vie sur le terrain.
Bey avait en revanche le regard noir face à la presse vendredi, le sentiment que certaines critiques sont un peu gratuites ou faciles, notamment certains bruits relayés dans la presse qui indiquent qu'il y a d'un côté les beaux discours de Bey en conférence de presse et de l'autre des consignes pas toujours très claires face aux joueurs. On avait donc Bey en mode boudeur.
Quand je parle, j'explique trop. Quand je décris, il décrit trop. Donc aujourd'hui, au moins, ça fera parler. Peut-être il parle pas assez. Puisque quand j'explique la façon qu'on a de voir notre travail, il parle trop, il nous enfume. Donc aujourd'hui, je vous donne le minimum.
Après cette prise de parole, Bey et les joueurs ont reçu vendredi donc la visite de Frank McCourt, le boss américain venu rappeler au groupe l'enjeu majeur que représente le podium. Les joueurs ont promis, et heureusement qu'ils avaient compris le message. Habib Bey a même adouci son management et allégé la mise au vert avec finalement une seule nuit à la commanderie, celle de samedi à aujourd'hui.
Merci Flo, on se retrouve ce soir évidemment en commentaire 20h45, OM Nice, supporter marseillais. On vous attend au 32-16, hein, ce que vous croyez à la révolte. On rappelle la petite sortie d'Habib Bey sur sa façon de parler. On embrasse Pascal Duprat, hein, qui la semaine dernière avait envoyé un petit peu sur l'entraîneur marseillais en nous disant force de parler de schéma hybride, envoie le diesel pour bien essayer d'envoyer un petit peu plus d'intensité dans les matchs. Bennett, tu crois pas à la révolte marseillaise?
Non, alors j'explique mes propos. Ils peuvent battre Nice ce soir 1-0, 2-1. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner ce soir. Je ne crois pas en la révolte parce que je trouve que ce groupe il est complètement mort. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. J'ai bien aimé que Medina parle, pour une fois. Parce que j'aurais aimé qu'il y ait un joueur qui fasse ça à Lorient, à la mi-temps ou sur le terrain à un moment donné. Quand Benassa dit il n'y a personne qui a renversé la table, mais à la mi-temps, dire les gars, attendez, on n'a pas besoin de changer de maillot, on ne transpire pas, on a fait 200 mètres chacun et personne qui court. On fait toujours la même chose, une passe latérale, un centre, on espère qu'il y a un miracle, qu'il y a un mec qui se retrouve au point. Voilà. Mais il n'y a plus de leader. Les leaders de vestiaire, entre guillemets, ont failli sur le terrain, donc à mon avis, ils se sentent plus du tout légitimes pour prendre la parole. Et Medina en fait un peu partie. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre prendre la parole, le niveau et surtout l'attitude. C'est-à-dire que Medina Balerdi, ils peuvent se trouer sportivement. Tout le monde s'est troué à un moment donné sportivement. Mais arrêtez de vous prendre pour des caïds sur le terrain, aller chauffer les mecs, à bomber le torse quand tu réussis un tacle. Faites preuve d'humilité, faites preuve d'opiniâtreté, faites preuve de combativité. Essayez de finir cette saison le mieux possible en mettant le club au moins quatrième et après, on verra. Mais pourquoi j'y crois pas et je finirai là-dessus? Ils ont joué 30 matchs l'OM cette année. Ils en ont perdu 10 défaites en Ligue 1. Un match sur trois, ça montre qu'il n'y a pas de caractère pour essayer d'aller chercher un nul par-ci, par-là. Tu récoltes 4-5 nuls, mine de rien, tu as 4-5 points de plus à ce moment-là au classement et tu n'es pas 7e ou 6e, tu es 3e ou 4e. Donc, ouais, je n'y crois pas à la révolte.
Si vous croyez à la révolte à Marseille, je rappelle, il restera à jouer derrière des matchs à Nantes, au Havre et contre Rennes au Vélodrome pour le dernier match. Non, mais il y a des matchs au Vélodrome, là. Tu ne crois pas à la révolte, non, Cédric? Tu as été dans des équipes.
Il n'y a plus d'essence. J'ai été dans des équipes.
L'orgueil, l'ego.
Oui, mais à partir de là, il faut qu'il y ait des discours et surtout des actes. Quand je suis d'accord avec Bennett, ça court pas, ça fait le minimum. Il y a pas de. Quand tu joues à Marseille, il y a un minimum qui est l'engagement, la volonté de se surpasser. Tu gagnes, tu perds. Même si je suis pas pour les défaites encourageantes, mais quand tu livres une prestation de haut niveau, tu peux perdre.
Bien sûr.
Mais là, il y a rien. Et il y a des déclarations. On les écoute, on les analyse, on les commente, mais derrière, il n'y a pas d'acte. C'est ça qui est dur. Dans ce vestiaire, j'ai l'impression que tout le monde regarde un peu ce qu'ils vont faire l'année prochaine, mais l'instant présent, ils le vivent pas.
C'est quoi cette équipe? Elle a trop montré qu'elle manquait de caractère pour toi cette saison, peut-être.
Bah, mais je sais pas s'ils ont manqué de caractère, mais ils ont pris beaucoup de coups sur la tête.
Oui, mais ils ont pris des coups parce que, au bout d'un moment, je veux bien tout entendre, mais les coups, tu les reçois parce que tu t'es prêt à les recevoir.
Tu, ouais, fais tout pour, tu fais tout, tu te mets tout en position pour les prendre.
Tu te mets toujours en position de les recevoir. On n'a pas de chance, le calendrier, ceci, cela. Mais quand tu perds 10 matchs, au bout d'un moment, c'est bien toi qui es sur la pelouse. Je veux bien entendre, et j'ai eu des managers avec de gros caractères, quand ça pique et que ça répond pas, bah, c'est compliqué. Et quand ça répond pas, c'est quand même aussi la faute des joueurs.
Moi, c'est d'abord la faute des joueurs.
Ouais, ouais. Moi, je veux bien qu'on commande tout, mais les joueurs, c'est eux qui courent, c'est eux qui font les passes, c'est eux qui font les efforts. Et là, il n'y a plus rien qui se passe.
Jérôme.
Non, étonnamment, je vais défendre un peu ceux qui dirigent ce club, parce que pour moi, ils sont fantomatiques. Et aujourd'hui, c'est une page qui se tourne et ces garçons-là ne seront plus là. On parle des Benassia, de l'entraîneur peut-être, et puis du président qui est déjà parti. En revanche, que moi, ce qui me révolte en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, qui aime ce club et qui est déçu depuis plusieurs semaines, c'est exactement ce que tu as dit. C'est cool qu'ils viennent parler Medina, c'est top, mais par contre, j'aurais voulu, comme l'a dit Bennett, qui tape du poing sur la table, qu'il y ait une vraie révolte, que sur le terrain on perde pas si facilement et que ça se batte et que
oui, mais maillot... en fait justement, il prend la parole pour essayer de provoquer quelque chose.
Non, mais c'est trop tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
c'est tout d'accord.
Pour moi, l'acte principal, c'était la remise en route après le départ de Longoria, après tout ce qui s'est passé. Le groupe aurait dû se ressouder là-dessus.
Ah, les gars, sur le terrain, soir, Marseille gagne contre Nice. Mais ça peut pas enclencher quelque chose.
Que dalle. En fait, pour moi, c'est juste que cette fin de saison doit... S'ils n'ont pas le levier, déjà la semaine dernière à Lens, à Lorient, sachant que la victoire contre Metz a été quand même tirée par les cheveux, c'est le levier, c'est la finale qu'ils peuvent s'offrir face à Rennes sur la dernière journée, avec un enjeu double, puisque Rennes, on le rappelle, est l'ancien club de d'Abi Bey. Et je pense qu'il y a une démission autour de ça, et que si ça ne les motive pas, si de jouer pour l'Olympique de Marseille et aller encore chercher une quatrième place, ça n'intéresse pas ces garçons-là, je ne vois pas comment il peut y avoir une révolte.
Chris. Non, moi je pense qu'il peut y avoir, comme il y a eu tout au long de la saison, une révolte momentanée. C'est-à-dire qu'ils peuvent ce soir faire un beau match contre Nice, mais je ne pense pas que cette victoire-là enclenche un vrai phénomène et qui fasse que l'OM redevienne une équipe. Il y a eu tellement de hauts et de bas, de montagnes russes depuis le début de la saison avec l'Olympique de Marseille, que je vois pas comment ils pourraient d'un seul coup aligner les victoires et devenir euphoriques.
Sachant que ce soir, il y a un garçon qui s'appelle Eli Wahi qui est en grande forme en ce moment, qui va se faire malin plaisir.
Qui a fait 6 mois à Marseille, qui a été mis dehors, et celui-ci en ce moment est sur un nuage. Il a qualifié à lui tout seul Nice pour la finale de la Coupe de France. Ce soir, il va arriver, il va se faire siffler, et vous allez voir souvent le phénomène d'un ancien joueur revient et qui marque contre son ancien club. En plus, je pense que la révolte, elle va plutôt, enfin, je parle en tant que supporter niçois là, mais elle va plutôt être du côté niçois, parce que cette victoire, cette qualification pour la finale de Coupe de France, pour une équipe dont l'électro-encéphalogramme était complètement plat, je pense que ça peut leur donner un supplément. D'autant que c'est quand même un derby de la Méditerranée, deux équipes qui se détestent, deux groupes de supporters qui se détestent, et voilà, donc ça ajoute du sel.
C'est justement un match, c'est justement le bon match pour cela, pour savoir si il y a encore un qui vive dans cette équipe.
Nice a rien à perdre.
Ils ont rien à perdre. Et Marseille,
Nice a 4 points d'avance sur la place de barragiste. Nice a un maintien à assurer.
Mais le maintien, tu vas pas l'assurer quand tu vas jouer face à l'OM.
Mais Nice a que des matchs compliqués jusqu'à la fin de saison.
Tu dois être solide. Après, moi, ce que j'ai,
il faut lui prendre les points.
Ce qui me fait très très peur et ce que je constate, c'est que il y a dissolution au sein du groupe et aussi
des joueurs marseillais.
Ils ont lâché l'entraîneur.
Il y en a beaucoup qui étaient là et ils le disent. Hein. Les joueurs, ils étaient défaits du départ de Deserbi à un moment donné.
Et certains n'ont absolument pas accepté l'arrivée d'Abi Bey.
Les joueurs ont lâché l'entraîneur. On n'a pas d'informations précises là-dessus, Jérôme, sur Abi Bey. Mais est-ce qu'il a raison, Bey, d'arriver en conférence de presse et dire profil bas maintenant, on m'a critiqué sur ma façon de parler, sur ma façon de présenter les choses. Maintenant, je vais donner le strict minimum. Est-ce qu'il a raison d'être dans une stratégie un peu D'apaisement, je sais pas, ou un peu boudeur.
Donc c'est nous qui faisons ça.
C'est le bout de la bouderie, ouais.
C'est nous qui faisons ça comme. C'est-à-dire qu'il a pas de ligne de conduite dans sa façon de se comporter. C'est je parle, j'analyse, je commente, et tout d'un coup on me tape sur les doigts, j'arrête. Mais non.
Oui, mais ça peut être aussi le côté. Bon ben maintenant, c'est les actes sur le terrain, quoi. Je vais plus rien donner parce que j'ai bien compris comment ça marche.
Mais comment on peut l'analyser? Comment on peut l'analyser?
Ouais, aujourd'hui. Non, mais il y a trop d'erreurs. C'était Balerdi le capitaine. Tu peux pas mettre Balerdi capitaine. Il a fait une erreur quand il lui a fait tirer le pénalty en Coupe de France contre Toulouse. Il n'est pas dans les dispositions mentales pour tirer un pénalty au Vélodrome, Balerdi. Il le loupe, tu te fais éliminer. Et pour revenir sur ce que disait Jérôme, aujourd'hui, et je pense, on n'est pas, s'il y avait Pascal, il est beaucoup plus spécialiste que nous pour analyser tactiquement comment faire jouer cette équipe, etc. Mais aujourd'hui, et je suis tombé sur une interview de Ferguson cette semaine,
l'ancien manager de Manchester United, mythique,
où il disait justement de plus en plus d'observateurs, il y a beaucoup d'émissions sur le football où tout le monde parle de la tactique, du schéma, etc., mais plus personne ne parle de l'essence même. Et lui, il disait ça sur ses équipes qu'il avait, sur le caractère et l'esprit d'équipe que doit dégager une équipe et un club. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que peu importe Baye qui met au milieu de terrain, mais si le mec au milieu de terrain, s'il met Nadi et Vermeeren par exemple, et que ces deux-là, on les voit, ils font que des allers-retours pour colmater les brèches, pour essayer d'apporter des solutions, et qu'ils loupent des passes, et qu'ils loupent des crochets parce qu'ils sont pas très bons ou qu'ils sont pas en confiance, et qu'il y a quelqu'un qui, en défense, qui essaye de s'accrocher, de se battre. Mais où en est l'OM aujourd'hui? Personne leur en voudra s'il y a vraiment ça, s'il n'y a pas plus dans le jeu. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir plus dans le jeu. Ils ont changé les entraîneurs, ils ont changé le directeur sportif, ils ont changé le président, etc. Donc le jeu, c'est terminé. On est à la 30e journée ou 31e journée du championnat.
Non, mais il n'y a même ensemble. Pas, y a pas d'âme dans cette équipe.
Et voilà,
ça,
parce que les mecs
sont là de passage.
Et c'est là où, en fait, Baye, il aurait dû, si j'ai une petite reproche à lui faire, c'est de s'atteler à ça. Et par exemple, la semaine dernière, à Lorient, il voit son équipe comment elle est. Mais à la mi-temps.
Mais là, c'était de Zerbi, en fait.
Tu changes les 5.
Qui parlait du public,
c'est du courage managérial. Au bout d'un moment, à Lorient, quand ça se passe pas bien, il veut renverser la table, mais qu'il le fasse jusqu'au
bien
bout.
Bien sûr.
Mais ça dégage, vous voulez pas courir.
C'est pas grave.
Mais on fait des grandes déclarations, on part en stage, on dit on va aller à la commanderie lundi, on va à la commanderie, on va plus sortir à la commanderie, et on fait finalement qu'une nuit.
Allez au bout.
Et puis, moi, où je te rejoins pas pour le coup, parce que j'en veux encore un peu plus à l'entraîneur actuel, c'est que, en gros, la conférence de presse où il prend la parole, il dit, mais maintenant, je vais vous en donner le minimum. Mais je rappelle toujours, et je l'ai fait déjà dans l'émission, c'est le garçon qui a pris en photo la glacière à l'époque de l'entraîneur qui était en place. Il dit, un jour, ce sera ma place. Il a voulu y être. Il est à l'OM. Il assume. Il est entraîneur d'un club qui est en difficulté. Il doit faire monter ce club et retrouver le rang de ce club. Et ben, c'est l'Olympique de Marseille. Si tu ne peux pas faire ça, eh bien, tu restes au Red Star ou tu vas dans un autre club. C'est l'Olympique de Marseille. Il a voulu être là. Il est là. Voilà.
Je vais aller plus loin. Mais là, son rôle aujourd'hui, c'est... Pardon, mais c'est...
dur.
Oui, il est dur, mais c'est...
Il savait avant d'arriver.
C'est
animateur de Santarere, là. C'est de redonner la quintessence aux joueurs. C'est quoi de jouer à Marseille? C'est quoi de porter le maillot de Marseille? C'est quoi se sublimer?
En fait,
c'est quoi de jouer ensemble? C'est quoi de s'amuser?
Je crois qu'il n'y a pas de notion. En fait, Cédric, il a raison.
Souvent.
À mon avis, c'est dur pour Habib Baye.
Sauf pour ses chaussures.
Ouais, parce qu'il aime, aime profondément l'Olympique de Marseille.
Fais-le ressentir.
En fait, aujourd'hui, il ne faut pas qu'il soit entraîneur comme il s'est imaginé l'être, Habib Baye.
Exactement.
Aujourd'hui, il doit être animateur de centre aéré, géo et calino-thérapeute. C'est-à-dire qu'il doit passer du temps avec ses joueurs. Il doit leur. Ce que je veux dire, il doit pas être dans essayer de réfléchir à faire un 4-3-3 à la Guardiola.
Là, il faut oublier
pour essayer de gagner de la crédibilité vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis de certains joueurs, pour garder son poste l'année prochaine. Les gars, venez, vous êtes les meilleurs, vous jouez à l'OM, c'est fantastique, déchirez-vous, si vous vous déchirez, vous allez avoir 60 000 personnes derrière vous, personne vous en voudra, on gagne 1-0, moche, on s'en fout, au point où on en est, on est 3e ou 4e, et s'il fait ça, Il aura peut-être une chance de rester et il pourra préparer son équipe pour l'année prochaine.
Des victoires tirées par les cheveux, il coache pour qu'on analyse
sa performance à lui. Exactement.
À lui. Ouais. Et non pour dire. Ouais. Moi, j'ai vécu dans des clubs où c'est dur, où tu joues le match.
C'est dur.
Mais c'est basique. C'est basique le comportement. C'est tu te viandes, tu te vides sur le terrain, tu donnes le meilleur toi-même.
Tu vides pas sur le terrain non plus, c'est dégueulasse. Oh, mais... sur WhatsApp, il y a beaucoup de messages contre Habib Bey, évidemment. Et tiens, on a Guillaume au 32-16 qui nous appelle sur Martin Marseillais. Salut Guillaume.
Oui, bonjour l'équipe, bonjour à tous.
Bon, est-ce que tu crois à la révolte marseillaise, toi?
Mais moi, ce soir, ils peuvent gagner 5-0. Je sais même pas si je vais faire un bond de mon canapé. Donc, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais d'ailleurs, je suis inquiet, ils sont pas partis en stage cette semaine, c'était la mode. De toute façon, il n'y a pas de révolte dans les staffs, dans les joueurs, dans plus rien, on n'attend plus rien. Mais c'est aussi nous qui devrons nous remettre en cause des supporters, parce que quand on avait Tudor, ça n'allait pas, quand on avait Sampaoli, ça n'allait pas, quand on avait De Zerbi, ça n'allait pas, quand on a Habib Bey, ça va pas. Un jour, ils vont nous mettre Guardiola et on sera les premiers supporters à le critiquer. Donc, je pense que c'est faire encore une fois une risette en fin de saison, recommencer à zéro, remettre un nouveau coach, remettre 17 joueurs. Et voilà, donc le seul, vous disiez tout à l'heure, qui aurait pu soulever la table, c'est Adrien Rabiot, mais on l'a mis dehors.
Ah ben parce qu'il a soulevé la table, justement. Enfin, en tout cas, il a
soulevé.
C'était peut-être le seul capable. Et d'ailleurs, lui, il a quitté le navire, malheureusement, et ça, c'est pas bien, mais il a quitté le navire avant tout le monde. Mais non, il n'y a pas de révolte, il n'y a plus rien. Il y a des joueurs qui sont fatigués. Comme vous dites, il y en a qui pensent déjà à leur contrat de l'année prochaine et autres. Donc ce soir, faut sauver les meubles, faut au minimum gagner. Et puis après, à Nantes, ça sera compliqué. Et puis après, Rennes à la maison. Donc,
sans Ligue
des Champions, on ne pourra rien faire.
Le mal, il est là parce que le seul qui avait du caractère et qui voulait, inverser la table et tout. Mais c'est facile, le poil à gratter, tu le dégages, et après, tu vis tranquillement. Mais tu vis tranquillement, sans résultat, c'est pépère, c'est sympa, et les emmerdes, elles s'accumulent parce que tu les mets sous le tapis, et au bout d'un moment, il n'y a rien qui se passe.
Jérôme ?
Non, mais je suis d'accord avec notre auditeur, c'est que c'est un club qui s'est endormi et que.
Et qui s'est foutu le feu tout seul cette année aussi.
Qui s'est mis le feu tout seul suite à des décisions très étranges. On le rappelle, l'élimination en Champions League, le but d'un gardien, derrière, on met le feu. J'ai l'impression qu'à l'Olympique de Marseille, on peut pas faire une année sans qu'il se passe rien, et que lorsque c'est le feu, on en rajoute encore un peu. Il fallait pas s'attendre à ce qu'un entraîneur qui a été viré d'un club où ça allait pas vienne sauver l'un des deux plus grands clubs de France. Ouais, et c'est celui qui a décidé ça,
il est toujours plus vert ailleurs.
Moi, j'ai une profonde conviction, c'est que le soir de Bruges, De Zerbi, il est au fond du trou parce qu'il est supporter dans l'âme.
L'élimination en Ligue des Champions.
Ouais, exactement. Et Jérôme l'a rappelé. Ils se font éliminer parce qu'il y a un gardien à Benfica qui marque à la 94e un truc. Donc, ok, tu perds 3-0, mais il y a ça aussi. Bah là, tu fais comme a fait le RC Toulon.
Mais c'est là qu'il faut aller en stage à Marbella.
Tu dis à Roberto De Zerbi,
va te reposer.
Prends 15 jours. Vas-y, c'est pas grave. Pancho à Bardonado, il fait les deux matchs. Mais repose-toi. Par contre, on croit en toi parce que c'est avec toi qu'on veut construire ce projet. Et tu reviens, et je suis sûr qu'avec deux arbitres, 3 semaines, ils sont toujours dans les 3 ou 4 premiers.
Mais c'est du courage de la part d'un président de faire ça. Hein.
Et une vision. Et de tenir.
Je remercie Guillaume de nous avoir appelé au 32-16. T'es pas loin de nous faire, moi, président de l'OM, Julien Benneteau, là.
Mon cahier est terminé, là. Je commence un nouveau cahier à partir de la semaine prochaine et je présente mon projet.
Avec la couverture de l'OM. Ils sont bien barrés, tiens, les Marseillais. Ils vont monter au filet, au moins.
Non, mais attendez, alors là, c'est incroyable, mais sur les réseaux sociaux, je reçois plein de messages. Hashtag Bennett à l'OM.
Bennett président.
Qu'est-ce qui se passe?
Hashtag Bennett président. Lancez le hashtag.
Et avec Jérôme Pinault comme directeur sportif.
Évidemment.
L'étiquette Pinault-Benneteau, là, je peux vous dire que ça va.
Moi, je reste sur l'événementiel des soirées.
On va mettre Pêche
Malo. Les stages à Morella, c'est pour moi.
Allez, je remercie Guillaume d'être venu au 32-16. Résultat du sondage, est-ce que vous croyez à la révolte marseillaise? On est resté sur le non à 85%. Marseille-Nice ce soir, 20h45. À suivre aujourd'hui également Lorient-Strasbourg, 15h, Le Havre-Metz, 17h15 dans le multi avec Karine Galli et Maxime Chano, Paris FC LOSC et Rennes-Nantes aussi, un derby breton. On dit derby breton pour Rennes-Nantes, je crois quand même, mais tout le monde n'est pas d'accord peut-être sur la position nantaise.
Nous, Nantais, oui.
Allez, on revient dans un instant, on va parler de Léon Marchand, on va être dans la fabrique du très très haut niveau, vous allez voir, c'est impressionnant, tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport, envoyez-nous hein, des messages avec le hashtag Bennett à l'OM, évidemment.
Non, Bennett président.
Bennett président. Bennett avec un T ou deux T?
Deux N, deux, un T.
Deux N, un T.
Le plus important, c'est d'avoir deux N, parce qu'autrement, si on fait un N, un T, ça fait Bennett. Tu vois,
faut, sent, faut éviter.
On sent le vécu, ça peut vite se
transformer en Bennett. Ouais.
Alors, deux N, deux T, tu vois, ça s'arrête, on est tranquille. Voilà.
Allez, on lance la campagne, évidemment, si jamais on obtient plus de 500 signatures, on envoie tout à Florent Germain, notre correspondant à Marseille.
J'adore.
Dans un instant, les GG remontent le temps. 28 avril 67 à Mohamed Ali refuse d'aller au Vietnam. Est-ce que les sportifs prennent trop de risques à exprimer leurs convictions aujourd'hui? Mais d'abord, on s'intéresse, les amis, à notre quadruple champion olympique de natation, Léon Marchand, lancé vers ses nouveaux objectifs. Alors, dans deux ans, vous le savez, il y aura les JO de Los Angeles. Mais avant, il y aura deux arrêts en France pour la première fois depuis Paris 2024 pour notre nageur de 23 ans, bientôt 24. Les championnats de France à Saint-Etienne, fin juin, et les Europes à Saint-Denis à la mi-août. Léon s'entraîne aux États-Unis pour tout ça, avec d'autres médias. On n'a plus parlé avec lui cette semaine. Écoutez attentivement, il parle de sa préparation. Comme ça.
RMC, la punchline GG.
Bah là, en gros, on nageait 8 km par session, 72 km par semaine avec 9 entraînements, plus 3 heures de muscu. Donc ouais, il y a un état de fatigue constant. Donc mentalement, en fait, ça va. C'est juste physiquement, c'était vraiment compliqué. Parce que j'ai plus 18 ans aussi. C'est des séances que j'arrivais vraiment bien à. Mon corps s'adaptait super bien il y a 3-4 ans. Et là, je réagis vraiment d'une autre façon. Donc j'ai dû adapter un peu aussi ma façon de récupérer, de faire les choses autour de la piscine un peu mieux qu'avant. Je suis obligé, par exemple, pour tenir ce genre de semaine de travail, je suis obligé de faire attention à mon équilibre humain, essayer de garder le sourire même dans les moments qui sont un peu durs, parce que sinon je sais que sport de haut niveau ça pardonne pas trop. Donc voilà, je fais attention à mon mental, je fais attention à mon corps, et ça va vraiment de pair, quoi. On peut pas faire genre sans l'autre.
On est dans la fabrique du très haut niveau en écoutant les mots de Léon Marchand. Vous avez entendu, ça va, mais c'est vrai que c'est, physiquement c'est plus compliqué. Je n'ai plus 18 ans, c'est quand même incroyable de dire ça.
Il en aura 24 le 17 mai.
Bonjour Julien Richard.
Salut Georges Quirino.
Notre voix de la natation qui arrive comme ça sur RMC. Les GG, est-ce que vous êtes impressionné par l'ultra-discipline de Marchand qui dit même faire attention à son équilibre humain en gardant le sourire? Oui ou non d'abord, Christophe?
Oui, c'est un immense champion de très haut niveau.
Jérôme?
Absolument, la même chose, grand respect.
Bennett?
Pas tant que ça.
Cédric?
Oui, mais la discipline le demande.
Alors Julien, tu es avec nous, donc c'est toi qui as pu parler avec Léon cette semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Léon Marchand, hein. C'est vrai que c'est un de nos super champions français aujourd'hui, et c'est important de comprendre comment ça marche vraiment au quotidien, pour pas idéaliser un peu ce qu'est la vie d'un champion. T'es impressionné toi, par ce que dit Léon?
Je suis comme Bennett, pas tant que ça, parce que c'est effectivement ce que demande ce sport-là, mais moi je trouve que ce qui ressort de ça, c'est qu'il a tourner la page de Paris et qu'il est vraiment tourné vers Los Angeles 2028. Et ça, c'est quand même pas gagné, en fait. Quand on a vécu ce qu'il a vécu, la déferlante derrière qu'il a pris, il a eu cette année de transition. Souvenez-vous, il est quand même double champion du monde à Singapour, 200 mètres 4 nages avec le record du monde, mais c'était un peu sur les acquis de Paris, c'est-à-dire le travail de l'époque. Il a eu une année quand même hyper compliquée. Là, c'est vraiment retour au boulot, quoi. Retour à la vie de moine. Il le dit, hein, j'ai une vie très ennuyante en ce moment. En plus, cette année, il a pas d'études, donc il en profite pour s'ennuyer. C'est ce qu'il a dit, pour m'ennuyer. Quand on s'ennuie, généralement, on est créatif. Donc, il s'est mis au piano, effectivement, et aussi, finalement, il allait plus loin dans tout ce qui est récupération, c'est-à-dire qu'il chronomètre ses siestes. Il s'amuse à voir au quotidien les effets que ont telle et telle chose, plus de séances de kiné. Genre, je bois un café, à quelle heure, je sens les effets. Donc, pour l'ajuster à un moment, il va le prendre avant l'entraînement. C'est vraiment des micro détails, mais il s'amuse à aller dans tout ça. Et je pense que Léon, c'est un garçon qui est comme ça, qui est dans le détail à fond
et
qui s'amuse à
faire ça. Il s'amuse, c'est ça, parce que
ça doit être le seul moment où il s'amuse. Ouais, c'est pas un sport amusant quand même.
Quand t'as 18 ans, que tu as des études, tu peux avoir d'autres pensées et ça va t'aérer l'esprit. Aujourd'hui, il a plus d'études. Il faut qu'il trouve ce jeu qui va le motiver. Comment aller gagner de la performance? Mais je vais peut-être dire une énorme bêtise. Mais jusqu'à quel âge on est ultra performant en natation? Parce que 24 ans, en natation, t'es jeune, t'es précoce, tu gagnes surtout lui, mais
c'est encore jeune. Après, il n'y a pas vraiment d'exemple. Généralement, tu arrêtes tôt quand même ce sport.
C'est ça, voilà. c'est ça dure combien de temps une carrière de nageur?
Écoute, à 19 ans, puisqu'on parlait de Paul Sexas tout à l'heure, je faisais la comparaison. À 19 ans, il était quand même déjà aux Jeux Olympiques, souviens-moi, à Tokyo, c'était ses premiers Jeux.
C'est le point qu'on peut faire avec l'émission d'hier. C'est-à-dire que c'est un garçon, au même titre que Sexas, que Wemby, que les autres, grand champion, même immense. Il n'y a pas d'âge, encore une fois. Dans le logiciel de ces garçons-là, combien de temps ça va durer, ça n'existe pas.
Si, je pense qu'en natation, plus que dans d'autres sports.
Le vélo, c'est pareil.
Alors, regarde la plupart des grands champions français, on en a eu quand même ces 20 dernières années. Il y en a très peu qui ont fait de vieux os, finalement, dans ce sport-là.
Mais justement, c'est ça qui est impressionnant.
Des Muffat, des Agnel, qui, une fois la hype passée, une fois leur titre glané, très vite, ils ont débranché dans la tête. Manodou, elle a été obligée d'arrêter, de reprendre. C'est tellement dur de compter les petits carreaux au fond de la piscine pendant des années que tu peux pas t'inscrire dans la durée sur la natation.
Mais je pense qu'il fait tout depuis le début de sa carrière pour ça, justement. Je pense se préserver mentalement. Il y a un gros boulot qu'il a effectué mentalement avec Thomas Samut, notamment pendant une époque. Là, il dit maintenant on est juste potes, le préparateur mental. Je l'ai au téléphone de temps en temps, mais il a sa méthode à lui. Sa priorité, c'est d'être heureux. Donc, c'est ce qu'il guide finalement. Et tant qu'il y a ça, il va continuer à nager.
Il a besoin de plaisir. C'est tellement dur de faire ce sport-là entre ces 72 km par semaine, plus la musculation, parce que c'est un sportif où du moins lui il a pris note que la musculation pouvait l'aider. S'il trouve pas des moments de cette petite bulle d'oxygène où il va s'amuser, alors s'il veut savoir quand fait le café, c'est très bien pour lui. Mais
c'est ça qui m'impressionne, en fait. C'est pour ça que je trouvais que c'est important qu'on en parle ce matin, parce que on n'imagine pas forcément ce que c'est au quotidien. Et Chris, t'as couvert le parcours de nombreux champions par le passé. On avait toujours une idée un peu romantique peut-être de comment ils se préparaient et tout ça. Il besoin de quelque chose de très concret, de très scientifique, Marchand. Mmh. Je dois sourire par rapport à ma façon de penser.
C'est
devenu aujourd'hui des approches scientifiques. C'est-à-dire
c'est pas qu'aujourd'hui,
il faut s'éloigner de.
En 2008.
De l'humain presque.
En fait, pourquoi moi je suis d'accord avec Julien en disant non, faut pas être sur l'humain.
Non, au contraire, oui, il faut. Ouais.
Mais que c'est. Oui, c'est impressionnant ce qu'il fait, mais que s'il veut être fort à Los Angeles, il n'a pas le choix. Malheureusement. Enfin, ou heureusement. Et c'est pour ça que moi je dis, et d'autant plus que ça, c'est pas si impressionnant que ça, parce qu'il est avec Bob Bowman et que c'est le coach de Phelps. Phelps, il s'est entraîné comme ça, voire plus. En 2008, quand il fait son.
Après, la santé mentale de Michael Phelps.
Oui, mais il y a tort aussi, la santé mentale. Mais ouais. Cette discipline-là, Christophe l'a un petit peu. Et je te l'ai dit hier au téléphone quand on a préparé l'émission. Oui. Tu comptes les carreaux et tout le monde n'en sort pas indemne. On a certains nageurs français en fin de carrière, ils sont pas tous sains d'esprit. On va pas les citer. Mais s'il veut durer, Laure Manodou avec Philippe Lucas, elle s'entraînait comment? Elle faisait une heure et demie de natation et elle allait faire des photos. Non, elle nageait des kilomètres et des kilomètres.
Justement, ce qui est plus impressionnant,
elle a gagné comme ça.
Tu dis à Bowman. Oui, à Bowman. Mais il peut se détacher de Bowman s'il veut lâcher du lest et s'il veut profiter.
Mais parce que et en plus
non mais je non, profiter mais, avec plus, Bowman dans sa
Marchand,
façon de travailler
Marchand, c'est ça qu'est-ce qu'il veut faire, il veut marquer l'histoire de sa discipline, voilà. Il veut battre le record du monde du 400 mètres et en plus il fait pas le 50 mètres nage libre où tu fais la moitié de la piscine,
c'est presque pas le même sport,
voilà. Donc merci Julien. Donc dans les disciplines dans lesquelles il est, dans les distances dans lesquelles il est, dans cette discipline là qui est la natation, s'il veut être l'un des plus grands de tous les temps, il est obligé.
Et il est à l'endroit rêvé, je pense, pour ça. Parce que Bowman, parce que ce que tu as dit sur Michael Phelps, c'est la santé mentale. Bob Bowman, il a beaucoup appris aussi en ayant un nageur qui a eu le 2000, premier JO 2000, dernier 2016, Phelps.
Donc, lui, il a fait une carrière,
très longue carrière, avec des trous et des conséquences sur la santé mentale, qui était quand même pas négligeable. Et ça, ils le prennent largement en compte. Et il y a une autre chose aussi, c'est que Léon est lié à Bob Bowman, mais s'il veut s'en détacher, il peut s'en détacher. Je veux dire, il n'y a pas un ascendant, il y a pas mal de recul en tout cas.
Je veux dire, s'il bosse avec, c'est qu'il a envie de faire le job. Je ne suis pas impressionné par sa discipline, parce que dans le sport que j'ai pratiqué, je sais qu'il faut de la discipline. Ça s'appelle faire le job.
Oui, mais regarde, faire le métier. On dit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de stages aussi, que les coureurs cyclistes sont de plus en plus loin de chez eux. En fait, il y a un sentiment de discipline de plus en plus important de par l'ultra professionnalisation. On va en parler tout à l'heure.
C'est le prix à payer pour être à très haut niveau. Mais moi, ce qui m'épate le plus chez lui, c'est d'avoir eu et remporté les titres qu'il a eu, et notamment à Paris, sortir de là et de se dire, je m'y recolle. Je me la remets, je me la recolle, je profite pas, j'y vais et j'en fais encore plus. C'est ça qui est impressionnant. Parce que
on peut tomber aussi, et ça aurait été tout à fait normal, dans l'espèce d'euphorie post-Paris où tout le monde est à ses pieds et je profite, j'ai l'âge de ça. Et le gars se dit non, j'ai encore des lignes de l'histoire de ma discipline, de mon sport, et peut-être effacer les autres. Donc je m'y recolle et je fais encore plus. Et à 24 ans, c'est chapeau.
Ouais, mais avant, il préparait son physique, la tête, elle était là. Quand t'as gagné, on va dire c'était 80-20. Maintenant, je pense que c'est plus un 60-40, 60 son corps, son physique, et 40% où il doit soigner, préparer son esprit, sa tête, pour être frais.
Ça
pour
force.
Être frais et avoir envie, tous les jours, de recommencer.
Sa force, c'est d'être aux US. Hein. La même aussi. Discipline, et la même envie, et les mêmes plans. Dans le pays dans lequel tu vis,
il est considéré comment aux États-Unis? C'est une star quand il se balade dans l'université?
Non, il est totalement anonyme. Ouais, d'ailleurs, ses camarades de l'équipe de France ont fait un stage avec lui à Los Angeles.
Je peux faire une comparaison? Pardon.
Ouais, vas-y. Non, mais juste, ils étaient même surpris. Ils se moquaient presque de lui. Mais non, mais en fait, personne ne te connaît aux États-Unis. Enfin, tu vois, ils étaient surpris de voir à quel point il est. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'hyper important. C'est pour ça qu'il est au meilleur endroit pour se préparer.
Quand tu es rugbyman à Toulouse, tu vas en ville, tout le monde te connaît. Tu montes à Paris, tu joues au rugby, c'est l'anonymat le plus total.
Mais et là, il n'y avait pas grand monde devant la porte. Là.
Non, mais pour ça, le sport universitaire aux États-Unis, il est incroyable. Moi, il y a une expérience. Mon frère, il a été au tennis au Gators de Floride, là où il y a eu Joachim Noah. Il y avait Ryan Lochte, le nageur, qui était là-bas, multiple champion olympique, etc. Mais le mec, il était au bar de l'université avec nous à côté. Tranquille, quoi. Tout le monde, il était un étudiant et un sportif parmi les autres.
Non, mais c'est la construction de la performance aussi. Elle passe aussi par là, par l'environnement que tu arrives à créer autour de toi. Il va partir en stage, c'est en altitude.
Il a une compétition à partir de jeudi à Fort Lauderdale, donc à côté de Miami. Ouais. Et c'est marrant, il reprend exactement le même programme d'ailleurs que les Jeux Olympiques. Il va nager les quatre mêmes courses. Colorado Springs, c'est le site d'entraînement du comité olympique américain.
C'est le fond romain américain.
C'est le fond romain américain. Voilà. Et là, on est reparti parce que là, il y a un petit peu, là, il y a 15 jours où ils ont un peu baissé le kilométrage justement pour se préparer pour cette compétition. Mais alors là, Colorado Springs, c'est vie de moine et surtout, ils vont manger des bornes et ça va être très très dur avant de revenir mi-juin en France pour. Alors, il y a peut-être une compétition avant, mais on va voir. Mi-juin en France pour préparer les championnats de France qui auront lieu du 27 juin au 2 juillet et ensuite les championnats d'Europe à Paris du 10 au 18 août.
C'est ça la vie d'un sportif de très 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 haut niveau et d'un garçon qui essaie de rentrer dans le vestiaire.
C'est pas vrai.
C'est dingue. Il tisse les sujets. Merci Julien Richard d'avoir été avec nous. Évidemment, on va suivre de plus en plus Léon Marchand, hein, parce qu'on va le retrouver en France donc fin juin, championnat de France à Saint-Etienne et aux Europes à Saint-Denis à la mi-août. Tiens, j'ai un message sur WhatsApp de Maxime hashtag Benet président. Bon, dommage. Allez, dans un instant, les GG remontent le temps. On va parler. Beaucoup rire. Mohamed Ali en 67 refuse d'aller au Vietnam. C'est un des plus grands moments de l'histoire du sport avec la politique de moment de conviction. Est-ce que c'est impossible aujourd'hui? Est-ce que c'est trop compliqué d'exprimer ses convictions quand on est sportif? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Dans un instant, le vestiaire, on va se demander si on est fait ou pas pour être dans l'élite, dans le sport. Ça va être intéressant d'en parler justement pour aller dans la suite de ce qu'on disait il y a quelques instants. Tiens les amis, Cédric Hémans, Julien Beneteau, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, on va faire un détour par Liège-Bastogne-Liège. Parti depuis 10h ce matin parce qu'il y a une situation de course assez surprenante, Maria Azé.
C'est très curieux. Non, pas Pogacar qui est parti, Remco Evenepoel qui est dans l'échappée, qui est dans le groupe, le gros groupe qui est à l'avant. Alors je vous explique un peu ce qui s'est passé. Il y a eu une chute au moment du départ et cette chute, elle a créé une cassure, une grosse cassure, et donc il y a une quarantaine de coureurs qui sont partis. Et au bout d'un moment, les UAE Tadej Pogacar se sont rendus compte que Remco Evenepoel était dans ce groupe de tête, et donc ils sont revenus dans le deuxième groupe pour essayer de ramener tout le monde. Mais ce qui se passe là actuellement, c'est que le groupe de 50 coureurs où figure Remco Evenepoel a 1,40 d'avance sur le groupe Tadej Pogacar et Paul Sexas. Alors c'est un en fait course vraiment qu'on n'attendait pas forcément. Mais en tout cas, Remco Evenepoel est devant et c'est panique à bord un peu chez les UAE et probablement chez les Decathlon CMA CGM. Il va falloir ramener tout ce petit monde pour revenir sur Remco Evenepoel, évidemment, qui a gagné deux fois ici. Donc c'est un sérieux, sérieux concurrent à ne pas prendre à la légère.
Jérôme Pinot, ouais, anecdotique ou fait de course quand même?
Non, non, c'est pas anecdotique justement. C'est surprenant parce que c'est un fait de course avec une chute, mais ça va être encore plus compliqué pour l'équipe UAE. Je pense que l'équipe CMA-CGM va devoir mettre la main à la pâte. On ne laisse pas partir un coureur comme Remco Evenepoel, même si on est encore très loin de l'arrivée. 50 coureurs, ça va être le bazar, mais si
il reste 222
km. On n'a pas les infos si Remco est accompagné par 4, 2, 3 équipiers et que
il
surtout
il faudra voir
la composition et surtout si certains outsiders se trouvent à l'avant, et ben ils vont profiter de cette situation. C'est pas une bonne nouvelle ni pour le Paul Sexas ni pour Tadej Pogacar.
Bon, Maria, tu nous tiens au courant.
Il a évidemment un coéquipier, Remco Evenepoel, c'est Nico Denz, ils sont tous les deux.
C'est pas beaucoup.
Merci Maria d'être précise parce que Chris, là, il mélange les pinceaux. Là. Ouais. Il a pas ses lunettes, non, il arrive à voir rien.
Il était sur la page tennis.
Ouais, il était sur Novak Djokovic.
Qui n'est pas dans le groupe de tête. Hein.
Novak est dans le groupe, mais Novak, c'est un coéquipier de Poggi.
C'est bien. Annulé remplace l'information. Merci Maria, on se retrouve dans un instant. La suite de Liège-Bastogne-Liège, 222 km. Et donc Remco dans un groupe devant d'échapper Mathieu. Ouais, ça, on l'avait pas vu venir, les amis, dans les scénarios.
C'est un peu temps. 50 coureurs, c'est plus qu'un groupe. C'est un beau bazar en général.
Allez, les amis, les GG remontent le temps tout de suite. Il y a 49 ans, 28 avril 67, Mohamed Ali, champion du monde de boxe et star planétaire, refusait d'aller se battre sous la bannière américaine à la guerre du Vietnam.
Ladies and gentlemen, Mr. Mohamed Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces.
He refused induction on the grounds of his religious convictions on war.
I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die, you my enemy.
Muhammad Ali, guilty of all charges and specifications. He was sentenced to the maximum, 5 years in prison, and was fined $10,000.
My conscience won't let me go shoot my brother. Some darker people.
Ma conscience m'interdit d'aller tuer mes semblables, des gens pauvres et affamés, juste pour la grandeur de l'Amérique. Pour quelle raison? Ils ne m'ont pas traité de nègre, ils n'ont pas essayé de me lyncher, ils ne m'ont pas déchu de ma nationalité, ils n'ont pas violé et tué ma mère. Pourquoi j'irais les tuer? Pour quel motif? Ce sont des bébés, des femmes et des enfants. Pourquoi j'irais tuer ces pauvres gens? Jetez-moi plutôt en prison.
How can I shoot them poor people? I'm just taking me to jail.
No, I won't be your friend. No, I won't.
C'est la voix de Mohamed Ali que vous entendez, hein, interpréter ce titre Planète Zère. C'est l'un des gestes politiques les plus célèbres de l'histoire du sport, celui qui a transformé peut-être Ali en symbole de la contestation de la guerre et du mouvement pour les droits civiques. Il reviendra en 70 ensuite après cette donc exclusion, puis affrontera Frazier pour le titre en 71. Il perd, puis gagne la revanche et sa légende s'écrit ensuite à Manille, puis la belle à Kinshasa face à George Foreman. Ali, évidemment, c'est un moment on va dire que beaucoup de fans de sport ont en tête, même au-delà. Aujourd'hui, en 2026, est-ce que les sportifs prennent trop de risques lorsqu'ils expriment leurs convictions par rapport à Ali? Tiens, Chris, je sais que tu es intéressé par l'histoire du sport, mais c'est un moment marquant.
Iconique.
Évidemment, iconique.
Ouais. Il y a deux gestes politiques les plus marquants de l'histoire du sport. C'est effectivement Mohamed Ali et Smith et Carlos sur le podium à Mexico en 68 avec le point noir ganté. C'est évidemment, les deux avaient morflé puisqu'ils avaient été tout simplement disqualifiés et qu'ils avaient plus pu derrière devenir sportif de, enfin, rester sportif de haut niveau. Aujourd'hui, si on cherche un équipe équivalent, moi je trouverais les footballeuses iraniennes par exemple, qui ont refusé de chanter l'hymne iranien il y a quelques jours et qui du coup leur famille ont été mises en prison, elles ont été obligées de revenir. Là faut être sérieusement burné, comme dirait l'autre, pour oser faire ce genre de truc le régime en Iran. Donc pour ces gens-là, j'ai un total respect. Ce sont des résistants, des résistantes, mais il y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Alors évidemment, oui, il y a des gestes symboliques, mettre le genou à terre au moment de
l'hymne américain aux voilà. États-Unis, au football
américain. Mais ça n'a rien à voir avec des gens qui risquent leur vie comme l'ont fait ces Iraniennes ou l'a fait Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est quand même 4 ans de suspension, beaucoup d'argent perdu et la menace de prison. À l'époque, en 67, quand t'étais noir, oser se mettre contre l'establishment américain blanc, c'était quand même sérieusement culotté.
Est-ce que aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué d'avoir ce genre d'attitude? Effectivement, Christophe parlait des Iraniennes. Il y en a des sportifs qui élèvent la voix. Il y a eu Victor Wembanyama il y a pas longtemps, parlait de la police d'immigration aux États-Unis. Il y a eu Kylian Mbappé, parfois s'est positionné également. On se rappelle après la mort du jeune Naël, qui avait donné son avis, mais c'est pas souvent très bien reçu. Est-ce que c'est trop risqué aujourd'hui de donner son avis politiquement quand on est sportif?
Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est très dur d'avoir un sportif qui arrive au même symbole que Mohamed Ali a fait.
Oui, mais t'es citoyen avant tout, donc tu as une opinion. Après, que tu le partages publiquement, moi je pense que c'est surtout être rodé à l'exercice. Moi, je l'ai jamais fait parce que je connais pas assez la politique et derrière, si on vient me chercher sur ce sujet-là, j'aurais peut-être pas tous les éléments pour pouvoir.
Je vois ce que tu veux dire.
Pour aller
mis en difficulté rapidement.
Avant tout, t'es citoyen.
Ouais.
Après, on a toujours des bien-pensants qui vont dire le sportif, il fait du sport, il parle pas de politique. Mais t'es citoyen.
Mais t'es citoyen engagé ou tu l'es pas.
Après, il y a des sportifs aujourd'hui. Alors, moi, Manu, je sais pas, mais il y a des sportifs dans certains pays. Moi, je sais qu'au tennis, par exemple, au début, quand il y a eu le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, t'as des joueurs russes.
Ça a été chaud. Ouais.
Après les matchs, ils ont mis stop boire sur le. Tu sais, quand ils signent, quand ils gagnent sur la caméra.
Bien sûr.
Ils ont reçu tout de suite un courrier de l'ambassade de Russie 3-4 jours après en leur disant c'est terminé.
Djoko en Serbie.
Il y a vos parents et vous avez de la famille en Russie.
Oui, c'est ça. Regardez Djoko effectivement qui a donné son avis sur les manifestations étudiantes en Serbie et qui depuis n'est pratiquement plus autorisé à avoir la parole dans son pays. En tout cas, il a des problèmes avec le gouvernement local. Non mais Jérôme, aujourd'hui quand on est sportif,
ça m'attriste que peu de sportifs, pour la raison évoquée par Cédric, puissent s'exprimer ou s'expriment ou sont pris au sérieux quand ils s'expriment, parce que nous les sportifs, on aime bien les mettre en avant quand il s'agit d'être élus, quand il s'agit d'être mis en lumière, quand il s'agit d'être accompagné de façon positive. Mais alors dès que l'on nous demande ou qu'ils prennent la parole, moi je trouve que Victor Wembanyama, sa prise de parole, elle est courageuse et elle est nécessaire. C'est-à-dire que soit on en fait des icônes et ça veut dire ce que ça veut dire, soit on passe notre tour et on le dit, c'est des gens qui sont bien dans leur stade, mais on les laisse dans leur stade. Mais on ne profite pas ensuite de leur notoriété pour mettre en avant certaines idées ou certains programmes. Donc moi, je trouve dommageable qu'on n'ait pas encore plus de prise de parole de la part des sportifs qui sont des champions, les très grands champions.
Parce qu'ils ne sont pas aidés par les instances sportives. Regarde, rappelez-vous de ce lugeur ukrainien pendant les Jeux qui a voulu dénoncer ce qui se passait en Ukraine en mettant des photos sur son casque de gens qui ont été sacrifiés justement par la guerre contre la Russie. Eh ben, il a été viré des Jeux par le CIO. Donc, surtout
sur le règlement de la neutralité du message politique.
Et en 68, quand on parlait de Smith et Carlos, c'était la même chose. Viré par le CIO. Le CIO, surtout, ne veut pas de vagues, ne veut pas de politique. Vous faites que du sport.
Et là, on joue du monde de football, on va voir l'équipe d'Iran aux États-Unis.
Non, mais exactement, parce que là, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Parce qu'on est dans un moment politique avec le sport.
Pas de la politique. La politique,
oui, c'est foutaise. Parce que les politiques, quand il faut se servir du sport pour aller chercher l'électorat ou pour se mettre en avant, t'inquiète, il y a du monde.
À l'inverse, pour visiter les vestiaires, les Coupes du Monde et autres.
Bien sûr, ils sont sur la photo, là. T'inquiète pas.
L'exemple de Mohamed Ali, il y a 49 ans, donc, l'un des gestes politiques les plus célèbres de l'histoire du sport et qui nous fait encore réfléchir aujourd'hui, justement, sur la voie que doit être celle des sportifs. Il y en a beaucoup qui parlent, hein. LeBron James, voilà, Kylian Mbappé. Il y en a beaucoup, évidemment. C'était il y a 59 ans, me dit mon producteur. Bah, j'ai mal calculé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça arrive, Maxime. On revient dans un instant dans le vestiaire. Les grandes gueules du sport, la difficulté de se maintenir dans l'élite ou de faire partie de l'élite du sport de haut niveau. Et puis on va parler de Bayern PSG à J-2. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.